Bonjour à tous, je suis Romain Walter, je suis directeur de Un chez soi d'abord Lyon. Et mon collègue ici présent est Martin, il est coordinateur de l'équipe. Et on est venu à deux parce qu'on fait tout en binôme. Et c'est une des manières de lutter contre les risques psychosociaux et le burn-out. Donc c'est une des billes. On nous a demandé de faire un petit retour d'expérience sur le case management. Après, à vrai dire, jusque-là, nous, on ne savait pas qu'on faisait du case management. C'est quand j'ai rencontré François Nizan, qui était venu nous rendre visite, qui nous a dit « en fait, vous faites ça ». Donc, on a dit « ok ». Et alors, on peut faire un retour. Nous, on parle plutôt de fil rouge dans l'équipe et d'inconditionnalité. Donc, le fil rouge, pour nous, ça veut dire qu'on essaie de garder le lien avec les personnes qui intègrent le programme et le garder coûte que coûte, en fait. Quoi. Et c'est ce que je veux dire par inconditionnalité, c'est-à-dire que même si les personnes disparaissent, qu'on perd leurs traces, qu'on n'entend plus parler d'eux, on se donne des délais assez importants pour pouvoir les retrouver. Puisqu'en fait, c'est toutes ces périodes d'interruption successives qui font que les dispositifs de soins ont été en général mis en échec par et pour ces personnes-là. Donc c'est comme ça un peu qu'on entend la question du case management. Alors, chez soi d'abord, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, juste un très rapide historique, parce que j'ai vraiment 5 minutes pour parler. Donc on est issu d'une pratique anglo-saxonne qui vient des États-Unis, donc qui me rappelle l'intervention de ce matin. Tout a été inventé là-bas et nous aussi. C'est le housing first. Donc l'idée consiste, c'est une approche par le logement, logement d'abord, donc qui consiste d'abord à fournir un logement aux personnes qui en sont dépourvues et qui présentent aussi un parcours d'errance important et des troubles psychiques importants, des troubles psychiatriques importants. De leur proposer d'abord un logement avant toute autre intervention. Et c'est aussi une manière de considérer que le logement fait partie intégrante de l'approche globale et du soin de la personne. Donc le soin ne se limite pas à l'acte médical. Il est beaucoup plus global que ça et on essaie de l'avoir dans cette approche-là. Il y a eu 4 sites historiques en France qui ont ouvert à partir de 2011, Paris, Lille, Toulouse, Marseille, qui ont accompagné une cohorte assez importante et qui visait à démontrer que, comme c'était dit ce matin, que c'était très efficace et très peu onéreux. Et comme c'est le cas, le programme se développe chaque année en France. On est aujourd'hui à 35 sites, alors que c'est parti initialement de 4 sites, avec des déclinaisons, maintenant des variations. Donc il y a sur des villes de taille moyenne. D'abord, c'est les grandes villes qui ont vu des dispositifs ouvrir. Et puis maintenant, c'est sur des villes de taille moyenne, voire des dispositifs ruraux. Et il y a une expérimentation en cours pour ouvrir le Un chez soi d'abord jeune à Toulouse et Lille depuis 2 ans. Et qu'on espère voir le jour à Lyon en 2023. On a une chargée de mission qui travaille sur le projet d'arrache-pied. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on est en train de se constituer aussi en réseau national avec l'association Un chez soi d'abord France. Après, Martin va parler un peu de la pratique concrète. Moi, je vous fais juste un tout petit rapide retour d'expérience de mon point de vue à moi. Sur le case management. Pour reprendre ce qui a été dit ce matin, ce qui est important, c'est d'essayer de décloisonner les domaines d'intervention. La structure juridique du Un chez soi d'abord, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Donc c'est un GCSMS, l'acronyme. C'est un bien gros mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire, quoi. C'est-à-dire que coopérer, c'est pas facile. Et on réunit des acteurs de secteurs différents pour essayer de les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est le législateur qui rend obligatoire cette démarche. Et c'est assez intéressant comme expérience à vivre de mettre 4 ou 6 acteurs institutionnels autour de la table qui n'ont jamais travaillé ensemble. Et leur dire, voilà, vous allez monter un établissement et vous allez faire plein de projets tous ensemble. Voilà. Donc ça se fait, c'est rigolo. Et on est piloté même par une délégation interministérielle qui s'appelle la DIAL, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui elle-même, par exemple, intervient sur plusieurs ministères. Donc eux aussi, ils rigolent bien, parce qu'ils ont plein d'interlocuteurs différents qui travaillent sur des domaines d'intervention très spécifiques, chacun. Et ils essaient de croiser la santé, le social, la précarité, le logement, que des gens qui ne travaillent pas ensemble. Et donc voilà. Donc dès le montage, en fait, c'est pensé comme ça. Un petit retour aussi d'expérience sur l'approche pluridisciplinaire de l'équipe. Je laisserai Martin en parler un petit peu. Je rebondirai à ce moment-là, parce qu'il faudrait présenter l'équipe d'abord. Juste, je te laisse la parole. Ouais, allez.
Bonjour, je ne sais pas si tu m'as présenté. Donc, Martin, moi, je suis EduxP et je suis nouvellement coordinateur de l'équipe. Bon, tu as pas mal introduit. Du coup, vous avez la petite liste de toutes les assos qui portent le groupement, donc avec Alinea et Acolea qui nous ont rejoints cette année. Donc, le groupement, il grossit aussi. On fait rentrer des gens encore dans le pilotage du projet. Notamment pour développer des nouveaux projets comme le chez Swagen, ce qui est en cours. Donc à Lyon, on a ouvert effectivement avec le premier accueil du public en mars 2019, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans. Actuellement dans l'équipe, donc on a 3 pères aidants, vous avez les équivalents temps plein parce qu'il y a pas mal de temps partiel, 2 infirmiers, 2 travailleurs sociaux, 2 psychiatres, 1 addicto, 1 généraliste, 1 psychologue et pas mal de stagiaires, apprentis aussi. On fait beaucoup d'accueil comme ça. Ça, c'est l'équipe médico-sociale et l'équipe de gestion locative, 4 travailleurs sociaux, comme vous l'avez compris. Il y a le volet logement, en fait. Donc, même au niveau des finances, c'est séparé. Donc, il y a l'ARS qui finance le côté médico-social et la DETS qui finance le côté logement. Et c'est hyper important aussi pour le fonctionnement du dispositif, c'est 2 équipes qui bossent ensemble au quotidien, mais qui, mine de rien, peuvent être séparées. Et donc, une équipe support, un coordo, un directeur, une assistante administrative, 2 comptables, tout ça pour 100 personnes accompagnées. Donc, depuis 2019, on a fait rentrer dans le dispositif, l'objectif, c'était 4 personnes par mois. Pour atteindre les 100 personnes, on a mis un peu plus de 2 ans et demi à atteindre l'objectif, notamment avec le Covid au milieu et avec le challenge de capter plus de 100 logements pour rendre ça effectif. Voilà, du coup, là, pour parler de la pratique, il faut aller vite, mais du coup, le lien avec le case management, en fait, c'est un lien qui est plutôt historique, du coup, en Amérique du Nord, notamment au Canada. Alors, je vais essayer de le prononcer. On a ici du modèle Assertive Community Treatment, je ne sais pas si je prononce bien, qui se traduit par suivi intensif dans le milieu, ou là-bas ils disent dans la communauté, mais en France il ne faut pas parler de communauté, donc attention. Donc, en gros, l'idée c'est qu'en Amérique du Nord, il y a le case management individuel qui est plutôt pensé pour des personnes qui ont des moindres besoins, entre guillemets, et des plus grosses équipes pluridisciplinaires, donc comme la nôtre, pour des personnes dont les besoins d'accompagnement sont en tout cas en apparence plus élevés, et notamment avec les problématiques sociales et de l'absence de logement et ce type de problématiques. Nous, on ne s'en réclame pas effectivement, et mine de rien, quand on creuse en fait un petit peu le sujet, on se retrouve complètement dans toutes les pratiques qui ont été décrites ce matin, notamment, avec des petites différences, même des grosses différences par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que nous, ce n'est pas des premiers épisodes psychotiques, c'est des personnes qui ont pour beaucoup passé longtemps à la rue, voire 10, 20, jusqu'à... Ouais, on a des personnes qui ont passé plus de 20 ans de rue et à qui bah, on propose un logement sans condition, ni de traitement, ni de soins, et l'accompagnement qui va avec. Donc forcément, on n'est pas dans une coordination totale avec des gens qui ne le demandent pas. En fait, eux, ce qu'ils demandent à l'arrivée, c'est un logement. Donc arriver et dire, nous, on va tout coordonner, ton psychiatre, etc., ton assistante sociale, et puis dis-nous ce que tu as besoin, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on se met là où la personne souhaite... qu'on se mette. Ce qui peut faire aussi un petit peu des fois des problèmes avec les partenaires, parce que du coup, on est avec des personnes qui sont parfois très loin du soin, qui ont énormément de difficultés à faire confiance. Du coup, si on commence à se parler dans le dos, entre guillemets, hein, en général, on informe les personnes, mais si on se met à parler avec des interlocuteurs sans trop se poser la question, y a la paranoïa qui revient, et puis en fait, enfin voilà, le lien de confiance est très 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 fragile, donc on est dans un respect total du secret et dans une vérification totale au quotidien de « Ok, il y a un partenaire qui nous a appelé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, non, de quoi on lui parle, etc. etc. » Enfin, on y va vraiment, vraiment sur des œufs, quoi. Il y avait pas mal de questions sur... où j'entends pas mal... nous, on fait déjà du case management. Moi, j'ai été éducateur en CHRS avant. J'ai été aussi formé au rétablissement. Pardon. Et il y a pas mal de gens qui ont dit, mais nous, on le fait déjà, la coordination, etc. Je pense que c'était vraiment fondamental dans la différence et ce qu'on a pu entendre dans l'intervention précédente, c'est vraiment les valeurs du rétablissement en santé mentale, l'approche qu'on dit, nous, basée sur les forces, basée sur les rêves, basé sur l'espoir, c'est vraiment le lien à la personne qui est fondé sur le fait que la personne qu'on accompagne, en fait, Il y a l'altérité, elle est différente, mais elle n'est pas du tout différente, en fait. L'autre, c'est moi. Et dans cette authenticité du lien, dans cette reconnaissance que la personne en face, ce n'est pas un malade, c'est un sujet de droit, comme moi, et que cette personne, ses rêves, ils sont valables, ses désirs, ils sont valables. Ce qui peut paraître être un délire, parce que c'est facile de dire qu'une personne malade délire, bah, ça peut être un rêve. Moi, j'ai peut-être des rêves complètement délirants, mais peut-être que j'ai le droit de les exprimer et qu'on va me prendre au sérieux. La vraie différence fondamentale, au-delà de coordonnées, c'est vraiment la façon de voir l'autre en face et la façon de la considérer comme être un sujet capable et désirant. Enfin, moi, c'est vraiment le mot. Quand on parle d'empowerment, il y a toutes les étapes qui font qu'on va atteindre l'autodétermination. Pour moi, l'empowerment, c'est de considérer que l'autre en face, quelle que soit sa maladie, ses addictions, son parcours de rue, il est déjà capable. Et nous, on lui fait confiance sur le fait qu'il soit capable et que peut-être, même avec ses capacités, il va avoir besoin de soutien, d'étayage, par là, par là, par là. Ok, où est-ce que tu veux qu'on te soutienne ? Je pense que la différence fondamentale entre le coordonner des parcours et avoir une posture de case management, elle est à ce niveau-là, en fait. Elle est dans la reconnaissance de l'autre comme un sujet capable et déjà capable. J'ai beaucoup improvisé, mais c'est...
Non, mais juste pour compléter là-dessus, et une des implications très concrètes de ça, c'est que on se considère comme une boîte à outils à disposition de la personne, ce qui fait qu'elle nous mobilise quand elle le souhaite et pour les sujets qu'elle souhaite. Et donc ça implique une énorme souplesse de la part des intervenants qui se rendent disponibles en fonction de la demande de la personne et à l'instant T. Et un médecin psychiatre dans l'équipe, quand il fait une visite à domicile avec un collègue pour rencontrer la personne, dans l'idée de faire un acte de soin, mais si dans cet instant-là, ce qui compte, c'est de réparer l'étagère de la personne, les deux professionnels qui interviennent se mettent à disposition de la personne pour répondre à cette demande-là. Charge au médecin psychiatre éventuellement d'arriver à parler soins peut-être autour d'une clé à molette et d'une étagère. Mais c'est une des manières d'y répondre. Et ce qui fait que nous, le retour par exemple qu'on a de l'équipe médicale, c'est qu'il y a très peu d'actes de soins qui sont réalisés. En fin de compte, ça a déjà été évoqué ce matin aussi. Le case manager, il est pas dans un niveau de technicité de dingue. Il est plus dans l'orientation, le lien, le plaidoyer. Et nous, à titre d'exemple, au bout d'un an, et demi à peu près, il y a l'ensemble du corps médical de l'équipe qui est parti. Et soit parce que c'était trop compliqué de ne pas être en référence sociale unique des personnes et de ne pas avoir l'entièreté du suivi des dossiers, soit parce qu'un manque de technicité dans les actes médicaux à réaliser auprès des personnes. Ouais. Mais c'est une des choses à accepter dans ce métier-là. Donc c'est pas que facile et c'est pas que solution magique.
Je vais essayer de faire vite pour avancer. On s'est beaucoup retrouvé dans l'organisation de Prepsy ce matin parce que nous, on parle de multi-référence où c'est presque pas de référence du tout. C'est aussi tous les professionnels que j'ai listés. Tout le monde accompagne tout le monde. Vraiment, fondamentalement, tout le monde accompagne tout le monde. Et tout le monde est à minima au courant de ce qu'il faut, de la situation de la personne à intenter. Alors, pas de toute la vie en général, il ne faut pas raconter sa vie, etc. Mais on a des outils de suivi qui font que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est noté et partagé dans notre logiciel de suivi, qui est aussi accessible en toute transparence aux personnes qu'on accompagne. Donc, elles ont des identifiants et les petites notes qu'on a prises sur la visite à domicile du jour. Si on n'a pas eu le temps de le faire avec la personne, elle pourra les lire après quand elle le souhaite. Il y a une vraie transparence à ce niveau-là. Et dans ce que tu disais aussi, dans ce que je disais, dans le rapport avec les personnes qu'on accompagne, il est autant basé sur... les gens dans l'équipe, en fait, on leur demande autant des compétences professionnelles que les qualités humaines et leur savoir expérientiel. On n'a pas trop développé sur le travail des pères aidants, mais tout le monde s'inspire de tout le monde dans l'équipe, et même si on n'est pas tous pères aidants, on ne peut pas tous dire voilà, moi j'ai vécu la maladie que tu vis et du coup on va le partager. Par contre, on incite vraiment l'équipe à parler de soi. Moi je parle, je ne sais pas, de mes enfants, de mes traumatismes, si ça a un intérêt avec la personne que j'ai en face, parce que comme on dit, quand on parle d'horizontalité, ça veut dire qu'on est dans un rapport d'humain à humain. Et moi, j'ai beau être soi-disant éducateur spécialisé, diplômé et de l'autre côté de la barrière, j'ai mon vécu qui peut aussi bénéficier aux personnes en face et qui veut aussi dire que j'ai pas un savoir supérieur. Par contre, on a peut-être des savoirs à partager et par contre, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de soutien et qui ne le trouvent pas dans leur famille. Moi, je le trouve peut-être dans ma famille, dans mes amis, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Juste un mot par rapport à ça. Si on tire le fil jusqu'au bout de cette logique-là, par rapport au MSP, par exemple, et à la question des risques psychosociaux, moi, en tant que directeur, ça a quand même révolutionné ma pratique sur la question de la santé mentale au travail. C'est-à-dire qu'on le voit comme un sujet de traitement et d'intervention de nos métiers, mais c'est aussi, on est tous concernés en fin de compte, et d'avoir des personnes dans l'équipe pour qui c'est un vrai sujet, le bien-être au travail et cette question de l'équilibre, de respect, peut-être de savoir où on en est le jour où on intervient. Ça laisse la place à une approche qui est assez différente. Et du coup, on est en hyper vigilance là-dessus. On a plein de petits outils. Tous les matins, on fait une météo en équipe pour savoir comment on se sent. On a le droit de se sentir pas en capacité de travailler un jour. L'efficacité au travail, elle est très nuancée. Ah ouais, d'accord. Et juste par rapport au MSP, souvent on se pose la question de leur place dans l'équipe. Nous, on se la pose pas trop parce qu'en fait, c'est leur place, elle est centrale. On n'essaie pas de leur faire une place. Ils ont toute la place et après, on s'articule autour d'eux. Et ce qu'on a essayé de faire, qui était assez rigolo, c'est que ça a été parmi les professionnels qu'on a recrutés. Et c'est eux qui ont participé au recrutement des autres membres de l'équipe et notamment des médecins. Juste en guise de conclusion, le film est un peu humoristique, mais il illustre ce que on peut entendre par case management, c'est-à-dire que le matin, toutes les portes sont closes et les locataires sont pas là, ils répondent pas, et on continue à venir quoi, jusqu'à ce que ça ouvre. Et quand ça ouvre pas, c'est pas un échec en fait. C'est peut-être que la personne, elle se sentait pas de nous recevoir à ce moment-là, et qu'il faut qu'on lui fasse confiance. C'est elle qui décide, c'est pas nous.